BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Sandra Gandoin.
Bonjour à tous, bienvenue dans 60 minutes business, votre émission d'actualité économique de la mi-journée. On est ravis de vous retrouver avec Jean-Marc Daniel. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Au sommaire de ce mercredi 30 novembre, l'inflation qui recule dans la zone euro en novembre, 10%, c'était 10,6% en octobre. Et parallèlement, les prix à la consommation progressent de 6,2% en France entre novembre 2021 et novembre 2022. Ça stagne, c'est une première estimation de l'INSEE. On va décrypter tous ces chiffres qui sont tombés ce matin avec Thomas Schnell dans un instant. Et Jean-Marc, évidemment. Emmanuel Macron en déplacement à Washington, le spatial et le nucléaire au programme aujourd'hui pour le président qui est venu accompagné de plusieurs patrons français. Les enjeux de souveraineté et de prix de l'énergie vont néanmoins beaucoup occuper les discussions avec Joe Biden. On en parlera dans le focus avec Patrick Sauce. Et puis, à l'occasion de la journée internationale des personnes handicapées cette semaine, nous allons recevoir Colin Gallois, cofondateur d'Epure, qui a eu l'idée assez lumineuse de créer un système de freinage pour les fauteuils roulants manuels. Il y en a 370 000 en France. Ces premiers produits seront mis sur le marché dans quelques semaines. Et puis, à 12h30, on vous retrouve BFM avec vous. Lorraine Goumont, on parle de quoi aujourd'hui?
Vous savez, peut-être dans votre entreprise, c'est la période des négociations annuelles obligatoires. Comment réussir le dialogue social dans ce contexte? Eh bien, on a toutes les réponses avec notre experte, notre avocat en droit du travail, qui viendra répondre à vos interrogations.
Patientez, c'est dans une demi-heure. Allez, tout de suite, c'est le journal. L'inflation reste donc élevée en cette fin d'année. En France, le taux se maintient à 6,2% en novembre selon les données provisoires de l'INSEE, à un niveau équivalent au mois d'octobre, Thomas Schnell. Les hausses de prix deviennent très visibles pour tous les produits de la vie quotidienne.
Oui, Thomas. Parce que 6,2%, c'est bien sûr en moyenne. Si on regarde dans le détail, parmi les premiers postes de dépenses, il y a bien sûr l'alimentation. La hausse des prix s'est accélérée en un mois, plus 12,2% sur un an. Mais les tarifs des produits frais, eux, diminuent, plus 12,5%. Après une hausse le mois dernier de 17,3%. A l'inverse, les prix de l'énergie, eux, ralentissent, plus 18,5%, alors qu'on était monté à plus 19,1% en octobre. Le coût des services ralentit aussi, plus 3% contre 3,1% le mois dernier. Au niveau de l'Europe, une très bonne nouvelle donc, le taux de l'inflation recule. Oui. Il passe de 10,6% à 10% en octobre. C'est la première baisse depuis juin 2021 et le début de la hausse des coûts de l'énergie. Conséquence de tout ça, eh bien, les prix ont littéralement explosé et la consommation des ménages donc diminue. Elle se replie nettement, moins 2,8% en un mois. C'est son plus fort recul depuis le mois d'avril 2021 qui, on se rappelle, avait été marqué par les confinements. Les Français ont consommé moins d'énergie, moins 7,9%. Cela s'explique par des températures anormalement hautes au mois d'octobre, mais aussi le recul des achats, moins 1,7%. Le pic d'inflation, cela dit, est encore devant nous, a prévenu l'OFCE. La facture de gaz et d'électricité en France devrait augmenter de 15% avec la fin du gel du prix du gaz avec le bouclier tarifaire, ce qui pourrait créer entre 0,6 et 0,7 points d'inflation selon le calcul de l'Institut Rexecode.
Merci Thomas Schnell. Jean-Marc, on va lire un petit peu ces indicateurs au niveau de la France. On dit effectivement avec ce qui va se passer début 2023 que le pic est devant nous. Au niveau de la zone euro, c'est en train de reculer déjà. Comment on peut lire ces chiffres?
Le pic de la France est devant nous alors que celui de la zone euro est derrière. C'est-à-dire que la France, n'ayant pas voulu jouer la vérité des prix rattrape la France,
rattraper.
Va la rattraper. Et donc, on va finir par avoir le même niveau de prix que le reste de la zone euro, puisque l'essentiel de l'inflation est une inflation importée. Donc, nous avons les mêmes causes, donc ça va produire les mêmes effets sur notre niveau général des prix. Ouais. Simplement, on aura différé l'opération, on aura lissé l'opération, avec un coût, je rappelle, qui aura été énorme, 170 milliards d'euros, tel qu'il a été évalué par le Sénat. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que, quand on compare mois par mois, on s'aperçoit que véritablement, la tendance est à l'inversion de la hausse des prix. C'est-à-dire que, sans vouloir jouer sur les mots et tout ça, on aurait été véritablement dans une situation, non pas d'inflation au sens strict du terme, mais une poussée des prix à un moment donné, liée à un phénomène extérieur qui était la hausse de l'énergie. Mmh. Et là, clairement, on peut considérer que quand même ça, c'est vraiment derrière nous. Le prix du gaz qui était à 340, 350 et maintenant en dessous de 100 euros.
Ça se rétablit,
oui. Ça se rétablit, on voit bien tous les jours sur le pétrole que le pétrole pétrole, le prix a plutôt tendance à s'effriter. Et même sur le charbon, qui est en train de revenir à la mode, puisqu'on réouvre une centrale à charbon dans l'est de la France, le prix du charbon est redescendu de $450 la tonne à $250 la tonne. Donc, il y a plutôt une tendance à la modération, mais nous, on ne va pas en bénéficier immédiatement, puisqu'on a retardé cette hausse des prix. Donc, maintenant, on va l'assumer.
Ça va nous coûter plus cher, on va le payer plus tard. Il faut faire attention à la dette, il me semble. C'est ce qu'on dira tout à l'heure.
Oui, tout à l'heure, effectivement. Tout ça, ça aurait été de la dette, et cette dette, elle n'est pas aussi innocente que ce qu'on aurait pu espérer.
Merci beaucoup Jean-Marc. On voulait évidemment parler en grande partie de ces indicateurs. Et puis dans l'actualité, aujourd'hui, il y a ce déplacement d'Emmanuel Macron à Washington. On va accueillir Patrick Sauce qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Patrick. Emmanuel Macron qui arrive à Washington. La relation, évidemment, il faut y faire attention. Relation à choyer entre Emmanuel Macron et Joe Biden. Alors les thèmes du jour, c'est le nucléaire et le spatial, mais il y a d'autres dossiers brûlants sur la table, Patrick.
Oui, notamment parce que les États-Unis sont engagés dans une grande transformation vers les énergies vertes. Oui. Sauf que pour faire voter ça, de la part de l'administration Biden, il fallait l'appui des républicains ou des démocrates les plus proches de l'aile républicaine. Et du coup, vous avez eu dans ce projet de loi énormissime, $370 milliards, une condition sine qua non. Très bien, on produit plus d'énergie verte ou de quoi rouler, par exemple, avec les voitures de façon verte, à condition que ce soit « made in America ». « Made in America », ça ne veut pas forcément dire entreprise américaine, mais des entreprises, par exemple européennes, qui choisiraient de s'implanter aux États-Unis. Alors, du côté des Français, on crie totalement au loup et à la distorsion de règles de l'Organisation mondiale du commerce. Le problème, c'est qu'on est un peu tout seul parce que les Allemands, qui sont des grands fournisseurs producteurs de voitures et de voitures électriques, qui ont eux-mêmes lancé leur transformation, on pense notamment à Porsche ou BMW, eux, ils sont très attirés par le marché américain. Les Américains, c'est le premier marché d'exportation pour les voitures allemandes, et ils n'ont pas du tout la même façon de voir les choses, et donc Emmanuel Macron risque de se sentir un peu seul face à cette Inflation Reduction Act lancée par Biden.
Oui, on va essayer de faire la même chose de notre côté, Jean-Marc, mais c'est vrai que les entreprises européennes vont regarder à deux fois en décidant d'installer ou non leurs usines en Europe ou aux États-Unis.
Oui, c'est sûr qu'un des éléments clés, c'est effectivement l'attraction faite par les États-Unis en termes d'implantation d'usines. On rappelle souvent que les États-Unis ont été pratiquement dans toute leur histoire protectionniste, contrairement à ce qu'on raconte. D'ailleurs, les républicains, historiquement, sont protectionnistes. Lincoln, son programme essentiel, c'était pas l'abolition de l'esclavage. C'était l'augmentation des droits de douane. Et donc, il a été élu pour ça. Et donc, c'est à partir de Kennedy qu'ils ont commencé un peu à lâcher la pression sur les droits de douane. Mmh. Et pourquoi ? Parce que ils avaient un apport systématique de main-d'œuvre. La stratégie américaine, c'est des droits de douane élevés, avec comme conséquence des gens qui viennent travailler sur le territoire américain, des usines qui s'implantent sur le territoire américain. Et ce qui est intéressant, c'est que l'administration, notamment Janet Yellen, tient de nouveau ce discours en disant « Nous avons vocation à être un territoire d'accueil d'hommes et de capitaux. » Alors, il faut voir aussi que les États-Unis, c'est $1 000 milliards de déficit extérieur. Mmh. C'est-à-dire 850 milliards de déficit de la balance des paiements courants, mais 1 000 milliards de dollars de la balance commerciale. Donc, c'est abyssal, c'est énorme. Et donc, il y a aussi quand même des Américains qui justifient leur protectionnisme, non seulement par la tradition, non seulement par l'attrait naturel du territoire américain, mais par le fait que ces 1 000 milliards de dollars, ils partent dans les caisses de la Chine, du Japon, de l'Allemagne, et ils finissent par être une pression sur l'activité américaine.
Sur la forme, Emmanuel Macron est parti avec plein de patrons français.
Évidemment, parce qu'il a sa casquette de dirigeant européen, il a surtout sa casquette de chef de l'État français. Ouais. Donc derrière lui, il a notamment Patrick Pouyanné, évidemment, pour Total Energy. Il a Bernard Arnault pour LVMH, parce que je vous ai parlé de cette loi de réduction de l'inflation, mais vous avez aussi ces profits de guerre. On est obligé de parler comme ça. L'Amérique qui vend son gaz de schiste, notamment 4 fois plus cher,
très, très cher
à l'extérieur que sur le marché domestique. Et là, il y a un vrai point de bisbille entre Emmanuel Macron et Joe Biden. Alors, il parle aussi aux Norvégiens, qui eux aussi en profitent, mais ce sont surtout les États-Unis qui tirent profit. Alors, les Américains disent mensonge, c'est absolument pas le cas.
Mais on va parler de ça.
Et puis, on n'insulte pas l'avenir du côté d'Emmanuel Macron, il faut vraiment lire toutes les lignes de ce programme, puisqu'il va aller voir des élus, notamment républicains, au Congrès, parce que 2024, ça arrive très vite. Et
c'est une bonne idée.
Vous savez
très
bien que ça peut très vite changer. Donald Trump ou Ron DeSantis, en tout cas, les républicains sont bien placés pour la prochaine présidentielle américaine.
On va suivre ça, évidemment, ce sont les premières heures de ce voyage. On va suivre ça au long de ces prochains jours, ces prochaines 24 heures, avec vous, Patrick Sauce, notamment. Merci beaucoup. Tout de suite, l'édito de Jean-Marc.
BFM Business, 60 minutes business, l'édito de Jean-Marc Daniel.
Et Jean-Marc, vous nous parlez justement de la Banque du Canada qui est dans le rouge, en déficit pour la première fois de son histoire. C'est quoi, depuis 87 ans?
Oui, depuis 87 ans, et auparavant elle était sous tutelle plus ou moins directe de la Banque d'Angleterre, et donc en réalité depuis qu'elle mène une vraie politique monétaire autonome, c'est la première fois qu'elle est en déficit, qu'elle va faire des pertes. Alors on parle beaucoup des banques centrales, on dit voilà l'inflation, elles vont monter leur taux et tout ça. Le véritable enjeu maintenant pour les banques centrales, c'est effectivement le fait qu'elles ont acheté énormément de dette publique, et cette dette publique n'est pas rémunérée. Cette dette publique, une fois que elles sont dans les caisses de la Banque centrale, une fois que les bons du Trésor sont dans les caisses de la Banque centrale, l'État verse les intérêts qui sont prévus par ces bons du Trésor, mais immédiatement, la Banque centrale doit le rendre à l'État. Donc, elle a une quantité d'activités qui ne sont pas rémunérées, et en revanche, elle est obligée, maintenant qu'elle a monté les taux d'intérêt, de rémunérer les banques qui déposent de l'argent auprès d'elle. Et les banques ont abondamment déposé de l'argent auprès d'elle, parce que le quantitative easing, ça consistait justement à demander aux banques de rapporter une partie de leurs effets pour le transformer en compte courant des banques auprès de la Banque centrale. Et donc, toutes les banques centrales se trouvent à l'heure actuelle dans une situation où leurs recettes sont extrêmement amoindries par la quantité de dette publique qu'elles détiennent, avec en face des dépenses qui, elles, s'accroissent au fur et à mesure qu'elles montent les taux d'intérêt.
C'est quoi la solution?
Alors, la solution, elles l'ont dit à plusieurs reprises, on va être obligé de réduire notre bilan, c'est-à-dire de réduire la quantité de dette publique que nous détenons. Sauf qu'il y a beaucoup d'États dans la situation d'endettement public mondial, et notamment en Europe, aux États-Unis et dans un certain nombre de pays émergents, la situation de dette publique est telle que si les banques centrales ne sont pas là pour garantir le rachat de ces dettes publiques...
Mais on est au bout d'un système, ça veut dire, Jean-Marc?
Alors, on est au bout d'un système qui peut effectivement remettre en cause la stabilité financière, remettre en cause la fiabilité des dettes publiques. On n'est peut-être pas au bout de la situation à la grecque dans les années 2010, mais pas loin, puisqu'à l'époque, effectivement, ce qui avait posé problème, c'est que la Banque centrale avait mis un certain temps avant d'accepter, par le biais du quoi qu'il en coûte de Mario Draghi, de se porter d'une certaine façon garante de la situation de la Grèce. Et donc, je pense que maintenant, on va rentrer dans une phase où ce ne sera pas une brutale rupture, et on va pas dire aux États, maintenant c'est fini, vous êtes au pied du mur, il faut que vous relisiez considérablement vos déficits. Mais je pense qu'on va quand même rentrer dans une phase où les banques centrales vont dire aux États, le quoi qu'il en coûte, l'argent magique, les facilités.
Je sens que vous allez dire, on vous avait prévenu.
C'est fini. Et je pense que, effectivement, il était temps qu'il y ait quelqu'un qui siffle la fin de la récréation.
Voilà, c'est fait, effectivement. Merci Jean-Marc. Allez, on fait un point Euronext tout de suite. Antoine Larigauderie, un CAC 40 qui rebondit, et le rebond tient visiblement.
Oui, c'est plutôt une bonne chose. Hein. Les séances précédentes n'étaient pas forcément le cas. On gagne 0,47% et on se maintient sur les 6700 points, plus 0,48% pour l'Eurostoxx 50 et plus 0,23% pour le DAX à Francfort. Léger rebond des marchés qui retrouvent une direction après une séance sans trop de nuances. Hein. Hier, on s'en souvient. Et du coup, le climat qui s'améliore un petit peu malgré une séance qui s'est terminée en baisse du côté de Wall Street. Autre fait marquant, c'est qu'on a une vraie consolidation sur les taux d'intérêt avec du 2,4% pour la dette française 10 ans, 1,94% pour la dette allemande, alors que la dette américaine, elle, se maintient du côté de 3,7%. Donc, les écarts de taux s'accroissent entre les deux zones. Malgré tout, l'euro-dollar, lui, reste rivé sur 1,03. On est à 1,0352, mais cette détente obligataire permet une belle remontée des valeurs du luxe, qui était déjà bien orientée avec la Chine, qui a rassuré hier. LVMH qui regagne 2% à 716 euros. On a Hermès, plus 2% à 1513,50 €, Kering plus 1,83, 562,70 €, mais les deux plus fortes hausses du CAC 40, elles sont pour Renault qui gagne 3,8% à 35,08 et Alstom plus 2,08 à 25,07. À la baisse, on retrouve Sanofi moins 2,6 à 85,86, Unibail, Rodamco, Westfield moins 2,50,90 et Publicis moins 0,8 à 62,50 €. Le CAC donc plus 0,51, 6703 points. Sandra,
bon, on n'a pas trop le temps d'en parler, mais il y a aussi un rebond du côté des cryptos. Vous confirmez très vite, Antoine?
Tout à fait, 16 800 pour le Bitcoin qui se rapproche donc des 17 000.
Voilà, très bien. Merci beaucoup Antoine Larigaudry. Dans un instant, nous allons recevoir Colin Gallois, cofondateur d'Epure, qui a inventé un système de freinage pour les fauteuils roulants manuels qui, pour la plupart, n'en ont pas. Il va nous expliquer son produit dans un instant. Il est notre invité. À tout de suite.
BFM Business, 60 minutes business, l'invité.
Et comme promis, notre invité ce midi est Colin Gallois, cofondateur d'Epure. Il y a 370 000 personnes qui utilisent un fauteuil roulant manuel en France, 65 millions dans le monde, et je l'ai découvert en préparant cette interview. Ces fauteuils ne sont pas ou peu équipés de systèmes de freinage, ce qui est quand même hallucinant, Colin Gallois, et c'est là que vous intervenez. Vous avez lancé Drift, enfin avec Epure, vous lancez un système qui s'appelle Drift, et vous il a fallu plusieurs années de recherche et développement pour y parvenir. Expliquez-nous cette aventure.
Alors c'est une aventure qui a démarré il y a plusieurs années. Moi j'étais en école d'ingénieur et en fait juste devant l'école il y a une pente. Et un soir en rentrant chez moi j'ai croisé un utilisateur de fauteuil roulant qui était en train de serrer les mains courantes de son fauteuil. Donc c'est un cerceau qui est autour de la roue et qu'on vient saisir pour se propulser, mais aussi lorsqu'on veut ralentir son fauteuil. Et en fait c'est un petit peu comme si on était sur son vélo. Et que pour freiner, la seule solution, c'était de saisir la roue avant à pleine main.
Les freins, c'est les mains.
Les mains sont des véritables plaquettes de frein. Mm-hmm. On vient saisir la roue directement du fauteuil pour freiner. Et à ce moment-là, je me suis posé une question qu'on nous a beaucoup posée depuis. Il n'y a pas de frein sur les fauteuils roulants.
C'est incroyable.
J'ai commencé à en parler à des utilisateurs de fauteuils roulants. Et à me rendre compte qu'en effet, la main est la seule solution. Et c'est comme ça que le projet a démarré et qu'on a essayé avec Lancelot, qui est un ami initialement, et puis aussi mon associé, à chercher une solution pour faire en sorte qu'on n'utilise plus ses mains comme des plaquettes.
Drift, c'est le système de roue, hein, c'est la roue dans son ensemble que vous avez repensé. Et l'idée, c'est évidemment de pouvoir la clipper, ou en tout cas l'installer sur tous les systèmes roulants manuels qui existent aujourd'hui.
Tout à fait. Notre système de freinage, en fait, il est intégré dans une paire de roues. Tout simplement parce qu'une paire de roues, c'est très facile à désinstaller et à réinstaller sur un fauteuil. Donc notre produit, c'est cette paire de roues. On a deux adaptateurs qui nous permettent d'être compatibles avec la grande majorité des fauteuils manuels. On est à peu près à 90% aujourd'hui des fauteuils compatibles. Et donc ça permet d'être très facilement installable, soit sur un fauteuil qui est déjà utilisé par un utilisateur et qui voudrait installer notre paire de roues, soit sur un fauteuil roulant neuf.
Jean-Marc.
Oui, vous avez dit que vous en avez parlé aux utilisateurs, mais est-ce que vous en avez parlé aux fabricants? C'est qui d'ailleurs les fabricants de fauteuils roulants? Et est-ce qu'ils vous ont accueilli avec plutôt faveur, ou est-ce qu'ils ont essayé de vous empêcher de mettre en place votre invention? Et puis dernière question, est-ce que c'est à eux que vous vendez, ou est-ce que c'est aux handicapés que vous vendez votre système?
Alors, je réponds dans l'ordre. Bien entendu, on est connu hein, des fabricants de fauteuils. On a des discussions avec eux. En fait, nous, l'objectif va bien entendu d'être, je dirais, assez rapidement de travailler avec les fabricants pour que le produit soit facilement accessible.
Et être une part
aujourd'hui,
de leur process.
On achète. Alors, une part de leur process, peut-être pas. En tout cas, pas tout de suite. Oui. L'idée, c'est que l'achat d'un fauteuil roulant aujourd'hui se fait chez un revendeur de dispositifs médicaux. Un petit peu l'équivalent du marchand de vélo, où on va acheter son vélo. Aujourd'hui, il y a des magasins dans lesquels on peut acheter des fauteuils roulants et où les fabricants viennent livrer les fauteuils. Et le plus simple pour nous, ça serait dans le futur que notre paire de roues soit directement disponible sur la fiche d'options comme un accessoire du fauteuil. D'accord. Et c'est à ce titre qu'on a des discussions avec les fauteuils roulants et qu'on espère voir notre produit de plus en plus répandu.
Pour prolonger, est-ce qu'il y a une sorte de monopole, un fabricant de fauteuils roulants, ou est-ce qu'il y a une multitude de petites entreprises?
Alors, il n'y a pas une multitude de petites entreprises, mais il n'y a pas un monopole, il y a aujourd'hui des grandes marques. Je dirais, il y a à peu près comme le nombre de marques de vélos qui commercialisent différents modèles de fauteuils. Et donc, il y a plusieurs groupes, plusieurs entreprises et plusieurs marques. Pour répondre à votre question, aujourd'hui, on a lancé une première précommande d'une centaine de paires de roues. La moitié, on l'a réservée directement à des clients particuliers parce qu'on avait vraiment à cœur de vendre directement aux utilisateurs de fauteuils et d'avoir leur retour. Mais nos clients, à partir du début de l'année prochaine, c'est bien les revendeurs, donc aujourd'hui les acteurs qui vendent les fauteuils roulants dont j'ai parlé il y a quelques secondes.
Vous avez créé Epure en 2020, il n'y a pas très longtemps. Vous êtes près de Lille, à Loos, à Eurasanté. Où sont fabriquées les roues Drift?
Alors aujourd'hui, on a un partenariat entre un partenaire industriel qui usine toute la partie centrale. Donc c'est vraiment le centre de la roue. Si on suit les rayons jusqu'au milieu, on arrive sur ce moyeu qui intègre la technologie de freinage. Mm-hmm. Donc ça, aujourd'hui, c'est réalisé en région bordelaise.
Il n'y a pas de secret, Jean-Marc, hein. Voilà.
L'intelligence est là.
Évidemment, hein. Voilà, près de Bordeaux.
Et une fois que le système est réalisé à Bordeaux, ensuite on achemine la technologie et les composants standards, les rayons, les jantes, etc. Juste à côté de notre bureau, à Lille, au sein d'une usine de vélo, l'usine de vélo du groupe Decathlon, dans laquelle on vient réaliser le produit fini, la paire de roues, et la mettre en packaging, ensuite l'expédier.
Vous l'avez dit tout à l'heure, le but c'est quand même d'intégrer le système général, de toucher le plus de personnes à mobilité réduite dans les mois, dans les années qui viennent. Quel est le prix de ces roues aujourd'hui? Est-ce qu'un jour elles vont être remboursées par la Sécurité sociale?
Alors aujourd'hui, on commercialise notre paire de roues à 1990 euros, en tout cas c'est le prix public. Cette paire de roues est pour l'instant pas prise en charge par la Sécurité sociale.
Mais c'est l'objectif.
Simplement. Alors nous, on va y travailler, on va tout faire pour. Aujourd'hui, système de freinage n'existe pas dans la nomenclature de la Sécurité sociale, tout simplement parce qu'on est le premier système de freinage au monde. Ouais. Donc il va falloir créer cette ligne, et pour ça, on doit réaliser une étude clinique. Ça fait partie aujourd'hui des choses qu'on a à cœur de financer et pouvoir démontrer les bienfaits de notre solution d'un point de vue clinique, les bienfaits, les bénéfices pour les patients.
Jean-Marc ?
Vous dites que vous êtes les premiers au monde. Est-ce que vous avez des ambitions internationales ? Vous êtes à Lille, est-ce qu'en Belgique, par exemple, il y a des clients potentiels, ou aux Pays-Bas ? Est-ce que vous êtes en train de regarder ça ? Ou est-ce que pour l'instant, vous restez très franco-français ?
On regarde activement, en effet, les utilisateurs en Belgique, à quelques dizaines de kilomètres de notre bureau, ont les mêmes problématiques que les Lillois ou les Bordelais. Mmh. Donc on a bien entendu l'ambition de proposer notre solution en dehors des frontières françaises. On était présent en septembre sur un salon international qui s'appelle Reacare à Düsseldorf. On a été sélectionné parmi les 10 innovations, parmi les milliers d'exposants qui étaient présents. Donc ça montre bien que les problématiques sont présentes en dehors de France. Par contre, on garde les pieds sur terre. Il faut qu'on réussisse notre lancement d'abord en France pour pouvoir dupliquer le modèle à l'étranger.
Vous êtes concentré sur Drift particulièrement, ou vous pensez déjà à l'étape d'après, au produit d'après en termes d'innovation pour compléter d'autres dispositifs?
Les deux. On se concentre sur le lancement de ce premier produit parce qu'on sait bien que s'il n'y a pas de réussite sur ce premier produit, on risque de ne pas avoir l'opportunité d'en développer de deuxième. Par contre, en effet, avec Lancelot, on est tous les deux ingénieurs et designers. On évolue dans ce milieu au contact des utilisateurs de fauteuils, au contact des professionnels de santé, des problématiques. Malheureusement, il y en a d'autres. Et on a un carnet d'idées avec différents produits qui est déjà bien rempli. On attend le bon moment pour lancer la suite.
C'est une idée logique mais lumineuse. Merci beaucoup Colin Gallois d'être venu nous voir, cofondateur d'Epure, pour nous parler de Drift, ce système de freinage pour fauteuil roulant manuel. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Tout de suite, les top 3 du web.
BFM Business, 60 minutes business, le top 3 du web.
Le top 3 du web, le moment préféré de Jean-Marc.
Évidemment.
Il attend ça avec impatience. On commence par ce camion autonome, Pierre Kupferman, qui circule dans les rues de Stockholm, sans personne au volant, donc.
Oui, camion qui, hormis ses antennes sur le toit, ressemble quand même à s'y méprendre aux autres modèles de la marque suédoise qui est à l'origine de cette innovation, donc Scania, qui est devenu le premier constructeur de poids lourds à faire circuler en Europe un camion de livraison 100% autonome. Les experts de Scania, estiment que l'intelligence artificielle chargée donc de piloter cet engin conduit mieux qu'un chauffeur routier.
C'est vexant.
Précisons que ce camion est pour le moment unique en son genre, que Scania prévoit d'en livrer en masse uniquement à la fin de la décennie, peut-être même d'ailleurs plutôt début 2030. Et le constructeur assure que ça ne remet pas en cause le métier de chauffeur routier, parce qu'il n'y a pas assez de candidats de toute façon pour répondre aux besoins, et que le dernier kilomètre se fera toujours avec des véhicules conduits par des humains.
Voilà, Jean-Marc.
Ah, je pense que dans beaucoup de domaines, l'intelligence artificielle se trompe moins que les hommes. Et donc, contrairement à ce que dit le concepteur, je pense que le métier de chauffeur routier fait partie des métiers qui vont être
peu à peu remplacés.
Mais il y a beaucoup de domaines où ça va être comme ça.
On reste dans le même domaine avec ces tunnels imaginés par Elon Musk pour désengorger la circulation dans les grandes villes, Pierre.
Oui, projet qui ressemble de plus en plus pour le coup à une impasse. Margot Vullière constate que l'entreprise derrière ces projets, qui s'appelle The Boring Company, a fait faux bond à la dernière minute dans plusieurs villes américaines. pas de réponse, par exemple, à l'appel d'offres de la ville d'Ontario en Californie, qui avait pourtant renoncé avant à un projet classique de liaison ferroviaire. À Los Angeles, de Boring Company, faut le rappeler, avec proposé, annoncé au mieux des années 2010 la création d'une liaison souterraine à grande vitesse, il y a eu un test qui a été réalisé en 2018, mais depuis le projet avance très très doucement, du fait notamment de difficultés à obtenir des permis de construire, mais il y a aussi la question des coûts de construction qui sont plus élevés que prévu. Et un dernier souci pour The Boring Company, que je vous laisse deviner, Jean-Marc.
Je pense qu'il y a quand même un souci de clients potentiels. Est-ce que les gens vont avoir l'idée de rentrer dans des tunnels pour circuler comme ça à l'intérieur des villes? Je ne suis pas sûr que ce soit très... Mais ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est, avant que votre réponse n'arrive, ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est que je pense que les auditeurs, téléspectateurs sont passionnés par Elon Musk. C'est du Jules Verne. Elon Musk, c'est du Jules Verne tous les jours.
Tous les jours.
Alors, c'est du Jules Verne qui a du problème avec les méthodes de management. Mais parce que l'entreprise a du mal à garder ses salariés, à même garder ses salariés, en fait, à cause des conditions de travail, notamment des horaires qui sont...
C'est moins les débouchés que les producteurs qui lui font défaut. Oui.
Et on finit ce top 3 justement avec cet article sur le temps de travail, Pierre.
Oui, alors c'est un arrêt qui a été rendu le 23 novembre par la Cour de cassation, arrêt qui porte sur le temps entre le domicile d'un salarié itinérant et le lieu où son employeur lui demande de se rendre pour une mission. Alors, s'il passe par son entreprise, c'est très clair, son déplacement jusque... au lieu où a lieu le rendez-vous, le client de l'entreprise, bon, ça c'est décompté du temps de travail, pas de problème. Mais qu'en est-il s'il se rend directement de chez lui jusqu'au client? Jean-Marc, donc la Cour de cassation vient de trancher, je vous écoute.
Eh bien, d'abord, première remarque, je pense que là, l'intelligence artificielle n'y arrivera pas. Là, quelle que soit la logique que l'on puisse mettre en place, quelle que soit l'intelligence des ingénieurs, ils n'arriveront pas à trouver la même chose que les juristes. Alors, je pense que la réponse, c'est que on est en temps de trajet, je pense, plutôt qu'en temps de travail sur la distance qui vous sépare de votre domicile.
Ça dépend,
Vous allez voir, il appartient désormais au juge de vérifier si, pendant ce temps de trajet, justement, entre le domicile et le premier ou le dernier client, ça va dans les deux sens, le salarié est libre ou non de vaquer à ses occupations personnelles ou s'il doit respecter les directives de son employeur. Et selon la réponse qui sera apportée à cette question, ce temps de trajet sera ou non considéré comme du temps de travail effectif et donc rémunéré comme tel.
Ça ne peut jamais être simple.
Ah oui, oui, oui. Donc, il ne faut pas s'arrêter au supermarché quand on sort de chez soi voir un client.
Merci beaucoup, Pierre Kupperman, pour cette top 3 du web. Merci, Jean-Marc. À demain.
À demain.
À midi. Dans un instant, BFM avec vous. Restez avec nous.
BFM Business, l'info éco.
À la une, de nombreux indicateurs. L'inflation recule dans la zone euro, 10% en novembre contre 10,6% le mois précédent. C'est la première baisse depuis 17 mois. En France, l'inflation se stabilise à 6,2% sur un an en novembre selon l'INSEE. La croissance du PIB est confirmée à plus 0,2% au troisième trimestre. La consommation des ménages, elle, enregistre sa plus forte chute depuis avril 2021. Elle baisse de 2,8% en octobre. En Chine, l'activité manufacturière poursuit sa chute en novembre pour le deuxième mois consécutif. Une activité toujours lestée par les restrictions anti-Covid. Les marchés s'interrogent, le FMI aussi. Le fonds dit qu'il pourrait devoir réviser à la baisse ses perspectives de croissance pour le pays. Et on apprend que l'ex-président chinois Jiang Zemin est décédé à 96 ans. Il avait dirigé le pays de 1989 au début des années 2000. Emmanuel Macron à Washington, c'est la première visite d'État organisée par Joe Biden. Plusieurs dossiers sensibles en discussion, le gaz que les Américains nous vendent, 4 à 5 fois plus cher que les clients américains, mais surtout l'Inflation Reduction Act, un protectionnisme assumé fortement critiqué en Europe. H&M va supprimer 1500 emplois pour réduire ses coûts. Le groupe suédois, qui emploie 155 000 personnes dans le monde, a lancé en septembre un plan visant à économiser 2 milliards de couronnes suédoises par an. Renault et Airbus s'allient dans la batterie électrique du futur. Les deux groupes ont signé un accord de recherche pour concevoir une batterie solide destinée aux voitures électriques et aux futurs avions hybrides. Une technologie qui pourrait permettre des gains de coûts, de poids et une plus grande autonomie. Et puis, une grève des contrôleurs de la SNCF est annoncée ce week-end de vendredi à dimanche. 60% des TGV et intercités sont annulés. Vos rendez-vous du jour sur BFM Business. Antoine Monin, directeur général France de Spotify, sera l'invité de Good Evening Business ce soir à 19h15 et Sidonie Dumas, directrice générale de Gaumont, sera l'invitée d'Edwige Chevrillon dans la grande interview à 19h30. Un mot des marchés. Le CAC qui est en hausse de 0,48% au-dessus des 6700 points à 6701 points.
Oui, le rebond tient. Merci beaucoup Nathan Cocampo.
60 minutes business, BFM Business avec vous.
BFM avec vous, comme promis à 12h33 avec Lorraine Goumeau. Et aujourd'hui, on va parler de comment réussir son dialogue social, Lorraine.
Et oui, vous expérimentez peut-être dans votre entreprise en ce moment des tensions, notamment autour des négociations annuelles obligatoires. Pour répondre à vos questions et surtout vous donner des bons conseils, on accueille Déborah David. Bonjour Déborah.
Bonjour.
Avocate associée en droit du travail chez De Gaulle Florence et associée. Alors peut-être pour débarrer, donnez-nous le pouls. Comment ça va? Qu'est-ce que vous observez sur le terrain et auprès des entreprises et des dirigeants, des dirigeantes?
L'année 2022 a été marquée par des bouleversements assez forts pour toutes les entreprises. Hein. On a eu l'incertitude qui a été liée à la sortie de crise du Covid. On a eu la pénurie de personnel dans un certain nombre de secteurs d'activité. On a eu aussi la crise de l'Ukraine, l'inflation, la crise du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, les entreprises sont aussi face à l'échéance qui arrive de remboursement des PGE. Il y a beaucoup de choses à gérer. Et c'est vrai que sur le plan social, les salariés aussi, crise du pouvoir d'achat, inflation qui monte, effectivement, il y a eu un certain nombre de difficultés pour négocier les NAO, plus cette année d'ailleurs que les années précédentes. C'est aussi dû au fait que l'année 2021 pour les entreprises a été plutôt bonne en réalité.
Et oui, on a tendance à l'oublier. Ouais.
Et les salariés se sont dit la société n'a pas de difficultés économiques. Merci de partager avec nous, parce qu'on a fait des efforts pendant le Covid.
Mais justement, plus de difficultés dans les NAO veut-il dire plus de conflits pour autant ?
Oui, il y a eu des conflits. Il y a eu beaucoup de conflits sociaux. En fait, dans quasiment la grande majorité des entreprises, il y a eu des conflits sociaux à l'occasion de la négociation sur les NAO. Alors, il y a plusieurs causes. Hein. Il y a ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'inflation, la crise du pouvoir d'achat, donc les gens, et la crise de l'essence, ça a été un marqueur très fort aussi. L'incertitude sur l'avenir, mais aussi le fait qu'il y a eu un renouvellement aussi des instances cette année. Oui. On a commencé le renouvellement des CSE de 2018, donc on a eu des changements d'interlocuteurs qui n'ont pas forcément facilité la tâche, parce qu'ils arrivent et on leur met tout de suite les NAO dans une période assez compliquée sur le plan économique pour tout le monde. Ça n'a pas été évident à gérer. De nombreuses entreprises ont connu des grèves, ce qui n'était pas arrivé depuis bien longtemps.
Un chiffre que vous avez peut-être vu passer à l'écran, la CFDT a recensé presque 300 problèmes, 300 difficultés dans les entreprises. C'était un chiffre au 15 novembre. Alors une réflexion de Laurent qui nous écoute en podcast et qui nous a écrit sur LinkedIn, qu'on salue. Il nous dit, c'est dans les moments de crise que le dialogue social doit jouer son rôle. En vrai ou faux, Déborah?
Alors c'est vrai, mais pas que. Évidemment, lorsqu'on rencontre une crise, le dialogue social est là pour se sortir de la crise et sortir par le haut. Sauf qu'on s'improvise pas acteur du dialogue social lorsqu'il y a une crise. Le dialogue social, c'est une épreuve de long cours. C'est des efforts quotidiens. Il faut mettre en place une routine du dialogue social pour que, en période de crise, elle puisse jouer son rôle essentiel.
Ça veut dire que ça ressemble à ça, un dialogue social. On n'attend pas les NAO, on fait des actions concrètes tout au long de l'année.
Tout le temps, il faut négocier sur tous les sujets. Il faut partager l'information. C'est vrai qu'il faut changer un peu des paradigmes, parce que pendant très longtemps, les entreprises se sont dit, on va partager le moins possible avec les représentants du personnel. D'abord parce que ça prend du temps de négocier, ça prend beaucoup de temps de négocier. On n'a pas envie de faire l'effort, et puis ils n'ont pas à tout savoir, parce que s'ils savent tout, ils vont nous demander plus. Il faut sortir de ce paradigme, il faut sortir des postures, que ce soit du point de vue de la direction, que ce soit du point de vue des syndicats, parce qu'on l'a vu pendant la crise du Covid, il y a eu beaucoup d'accords qui sont sortis. Alors, il y a eu aussi des frustrations de la part des partenaires sociaux qui se sont dit, mais la loi a fait que lorsqu'on n'arrivait pas à négocier, eh bien, l'entreprise pouvait mettre en place de façon unilatérale les mesures. Oui, mais on était en période aussi où on n'avait pas le temps. Mais il n'empêche que le dialogue social a joué son rôle pendant ces crises. Là, on a vu qu'on arrivait, en partageant les diagnostics, trouver des mesures intelligentes pour l'ensemble des protagonistes, c'est-à-dire pour les entreprises, pour qu'elles puissent survivre, et pour les salariés, pour qu'ils continuent à travailler dans l'entreprise.
On va vous faire réagir à ce que nous écrit Myriam à l'adresse avec vous à bfmbusiness.fr. Elle nous dit, il n'y a pas que les dirigeants qui doivent progresser et apprendre à dialoguer. Il faut donner des moyens au dialogue social et assurer la formation des représentants du personnel. Quelle formation? Là, vous évoquiez le renouvellement des CSE. Qui on forme? Comment on les forme? Qui paye la formation d'un point de vue pratique? Comment ça se passe?
Alors, il y a des obligations légales et puis il y a les recommandations de bonnes pratiques. Les obligations légales, c'est que toutes les fois qu'on élit un CSE, et effectivement, les membres du CSE bénéficient de formations obligatoires qui sont des formations obligatoires en termes de santé-sécurité, c'est normal, hein, parce que tout le monde ne s'improvise pas maître de la santé-sécurité au travail, mais aussi dans certaines entreprises de plus de 50 salariés, des formations qu'on appelle économiques et financières, mais en réalité qui se cantonnent au fonctionnement du CSE, au budget du CSE, etc.
C'est pas un MBA, quoi.
Non, c'est pas un MBA. Dans les entreprises vertueuses et qui ont compris que pour négocier des accords, il faut avoir des interlocuteurs qui savent de quoi ils parlent, parce qu'on ne négocie pas sur quelque chose qu'on ne comprend pas. On ne prend pas la responsabilité d'impacter la vie des salariés qu'on représente lorsqu'on ne comprend pas les enjeux. Donc dans ces cas-là, moi je préconise toujours des formations économiques, mais vraiment pas MBA, mais enfin qu'ils comprennent véritablement de quoi on parle.
Il y a beaucoup de notions à connaître.
Il y a beaucoup de notions à connaître.
Les salaires.
Bien sûr.
Il y a plein de notions différentes.
Ouais, absolument, absolument. Donc, les gens ne sont pas forcément formés, notamment dans l'industrie, où les gens dans l'industrie, attention, il ne faut pas les prendre pour des idiots, ils connaissent parfaitement leur entreprise. Ils connaissent le tissu économique, ils connaissent les difficultés de l'entreprise, ça, on ne va pas leur apprendre. En revanche, les mécanismes, parce qu'on utilise beaucoup de mécanismes juridiques, légaux, etc., ils doivent mieux les comprendre. Les accords d'intéressement, il faut leur expliquer comment ça fonctionne, les méthodes de calcul, etc. Tout ce qui a un caractère un peu financier, on va dire high level, il faut quand même leur donner des billes. Mais pas seulement, il faut aussi former les élus au harcèlement moral, au harcèlement sexuel, à la violence au travail, comment on réagit, comment on remonte l'information, comment on fait pour déclencher une alerte, etc. Donc oui, il faut offrir des formations en plus de ce qui est prévu dans le Code du travail aux représentants du personnel et aux partenaires sociaux.
Il y a presque une question, on se dit qu'on ne pourrait pas avoir de cumul de fonctions, être représentant et en même temps être un salarié comme un autre, parce que c'est presque un job à temps plein.
Alors pour beaucoup c'est un job à temps plein, mais ça pose aussi des difficultés parce qu'on se rend compte qu'il y a une crise de l'investissement syndical. Il y a de moins en moins de demandes, les jeunes générations n'y vont pas, malheureusement. Pourquoi? Parce que d'abord c'est mal reconnu, parce que l'image est troublée, mais aussi parce qu'ils ne savent pas quoi faire après. Admettons que vous ayez passé 4, 8, 12 ans en tant que représentante du personnel à faire quasiment que ça. Mais après votre carrière, vous en faites quoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une limitation du nombre des mandats qui est prévue par la loi. On fait quoi après? Comment est-ce qu'on valorise cette expérience et cette expertise qui a été acquise à
ce moment-là? Mais surtout, comment on n'est pas grillé? Parce qu'il y a quand même aussi une connotation d'être engagé d'un point de vue syndical.
Mais ça, c'est le rôle des entreprises, de mettre en place des mesures, de mettre en place des entretiens de carrière, de mettre en place une reconnaissance de la validation des expertises qui ont été acquises par les salariés, parce qu'ils apprennent plein de choses, les salariés, quand ils représentent le personnel. Donc, il faut valoriser ça. Dans les accords de dialogue social, il faut négocier. Mettez le plus d'accords possible dans votre entreprise. Je sais que c'est long, c'est fastidieux, mais au bout du compte, on perd au départ du temps pour en gagner derrière.
En 30 secondes, Déborah, le conseil, c'est négocier, c'est ça?
Ah oui, ne pas hésiter à donner sa chance à la négociation. Moi, j'ai beaucoup de DRH qui me disent « Non, mais chez nous, on négocie pas. » Parce que vous savez, on a la CGT, on a des syndicats qui sont en position de posture. Allez-y, donnez l'information. Soyez clair dans l'information, soyez transparent sur le diagnostic de l'entreprise et offrez des contreparties qui soient équitable. N'essayez pas de tordre le bras au syndicat parce que vous tordez le bras en même temps aux salariés. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Essayez de donner de l'espoir aussi aux salariés sur un futur meilleur lorsqu'on rencontre des difficultés. Mettez en place des accords d'intéressement. Bon, les accords de participation, ils sont légaux, mais on peut prévoir des formules dérogatoires. Il y a aussi les primes sur la valeur. Il faut partager avec les salariés. Il faut qu'ils soient complètement investis dans le succès de l'entreprise.
Il y a beaucoup à faire. Partager la valeur, mais aussi, vous avez entendu, l'information. Merci beaucoup, Déborah David, d'être venue nous voir pour cette partie. Dans un instant, deuxième partie de BFM avec vous. On recrute, à tout de suite.
60 minutes business, BFM Business avec vous.
BFM avec vous recrute et votre premier recruteur Lorraine est Daniel Gwenzardi.
Bonjour Daniel.
Bonjour.
Avec vous, on va parler de développement de logiciels sur mesure. C'est ce que vous faites avec votre équipe. Vous accompagnez les entreprises un peu comme un tailleur. Vous accompagnez sur mesure. Décrivez-nous ce que vous faites.
Alors, tout à fait. La société Sofluent existe depuis 17 ans. Elle a fêté ses 17 ans cette année. Elle a fait pas mal d'annonces stratégiques puisqu'on a levé 2 millions d'euros auprès d'un actionnaire familial pour changer un petit peu d'échelle et développer une stratégie régionale. On a profité de l'occasion pour fusionner avec une société normande qui s'appelle Devolis et qui se présente comme les couturiers de l'informatique.
Eh ben oui.
On va reprendre un petit peu votre comparaison. Donc on fait effectivement principalement du logiciel sur mesure. On est ce qu'on appelle dans le jargon une ESN, avec la particularité d'être spécialisé sur certaines technologies, les technologies notamment Microsoft.net, qui sont les technologies du monde Microsoft. Il y en a plusieurs dans le monde du développement et on est vraiment expert dans ce développement de logiciels. On est d'ailleurs éditeur en propre d'un logiciel collaboratif qui s'appelle Rocher, qui nous donne une dimension d'innovation assez importante.
Vous faites quel type de clients?
Alors, en type de client, on est vraiment très variés. Beaucoup de nos clients sont eux-mêmes des éditeurs. On est souvent en second niveau parce qu'on a une expertise qui est assez forte et sur laquelle se réassurent les différents éditeurs. On fait pas mal de conseils aux éditeurs. Après, en termes de secteur d'activité, on n'est pas du tout spécialisé. On a des clients dans le monde de l'éducation, des clients dans l'industrie, des clients dans le retail, dans le client dans la santé. On est vraiment tout secteur d'un point de vue vertical.
Basé à Antony, mais aussi avec un pied à Rouen et à Sophie Antipolis, et vous avez 10 nationalités dans votre équipe parce que justement le langage du logiciel n'a pas de frontières.
Alors oui, nous, notre langage c'est plutôt le C#, donc c'est un langage de code, mais effectivement en termes de culture, alors c'est lié un peu à l'histoire de Sofluent. Quand on a démarré, on était trois anciens de Microsoft à avoir créé l'entreprise. On a eu du mal finalement à recruter aussi parfois des gens qui avaient plutôt la culture de la prudence, on va dire, dans l'univers français, et on s'est retrouvé à recruter des étrangers un petit peu par hasard ou par contre au départ, et finalement on a trouvé que ça amenait beaucoup de valeur. On a eu beaucoup, à une époque on était 15 et on avait 11 nationalités, donc voilà, très tôt en fait dans le cycle de l'entreprise on a eu des gens de cultures différentes et on a trouvé que ça nous apportait beaucoup. On a eu des gens de tous les continents et on a développé ce côté à la fois multiculturel. On est aussi pas mal engagé pour essayer d'avoir plus de femmes dans le numérique, ce qui n'est pas évident parce que dans nos filières, dès la source et dès l'école, je dirais, on a beaucoup moins de femmes que d'hommes.
Vous ouvrez une trentaine de postes au total, quel poste par exemple?
Alors, on ouvre effectivement une trentaine de postes sur l'année 2023. On garde un ADN qui est extrêmement technique. Donc, la plupart des postes sont des postes à dominante technique. Donc,
allez-y.
Principalement dans les métiers du développement. Alors, toujours dans le développement sur technologie Microsoft, Azure, etc. On va recruter aussi bien des développeurs assez jeunes que des développeurs confirmés, des consultants qui vont être ce qu'on appelle des architectes, jusqu'à des CTO conseils qui sont des gens qui vont conseiller les éditeurs dans leur transformation technologique. Aujourd'hui, c'est un enjeu très difficile, même pour les fonds d'investissement, d'accompagner leur portefeuille dans les transitions dont on a besoin, notamment vers le cloud. Et là-dessus, on va recruter des profils très, très élevés.
Un mot, le choix d'être dans l'écosystème Microsoft plutôt qu'un autre se base parce que sur le fait que vous étiez vous-même chez Microsoft avant. Comment vous inscrivez la souveraineté numérique dans votre quotidien?
Alors, tout à fait. Donc, on est Microsoft plus par compétence parce que ce sont des métiers qui sont quand même spécialisés. En général, c'est difficile de maîtriser toute la pile technologique. Du point de vue de la mise en œuvre, on est très teinté Microsoft. Du point de vue du conseil, parce qu'on fait pas mal de conseils autour du métier du développement, on est très agnostique et très neutre. Donc, en fait, par exemple, les missions dont je parlais d'accompagnement CTO sont en général multi-technologies. Nous arriver d'auditer les sociétés dans du Java, du PHP, tout un tas d'autres technologies de l'univers du développement. Mais dans la mise en œuvre, on s'est un petit peu spécialisé plus par compétences que par religion. Voilà. Et après, on a une grande stratégie de développer les régions. Ça, c'est aussi un axe. Et également un petit peu l'attaque fonctionnelle pour accompagner les clients, donc par des chefs de projet, des business analystes, ce qui va être un deuxième axe de recrutement. Et le troisième étant évidemment l'aspect régional.
On postule où, Lorraine? Ça se passe directement à l'adresse de Sylvie qui s'affiche à l'écran, c'est smb@softfluent.com. Vous pouvez évidemment aussi retrouver l'ensemble des offres de Sofluent sur Welcome to the Jungle, sur LinkedIn et puis sur le site de l'APEC. Et je précise que vous êtes dans une entreprise où 90% des salariés sont actionnaires.
Vous restez avec nous, Daniel Cohen-Zardi. On accueille également Julien Bellin, qu'on connaît, hein, Déficia. Bonjour.
Bonjour.
Oui, vous parlez très souvent de pilotage énergétique, Sandra. On sait que c'est l'un de vos sujets préférés.
C'est vrai.
Alors Julien, rappelez-nous ce que fait Efficia.
Alors, chez Efficia, on vend des services de pilotage énergétique des bâtiments à distance, 24 heures sur 24, à la place des occupants.
Non, mais ce sujet de transition énergétique, pardon, il est très sérieux. Je ne veux pas qu'on croie qu'on plaisante. Vous êtes un des acteurs, justement, de cette transition énergétique. Vous, vous vous zoomez particulièrement sur les équipements, je vais mal le dire, mais chauffage, climatisation, et aussi sur la gestion des bâtiments à proprement parler. Combien vous gérez d'immeubles ou de bâtiments? Donnez-nous.
Alors aujourd'hui, on pilote un peu plus de 2500 bâtiments en direct, en live, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en France, en Espagne et en Italie.
Alors, on imagine que vous avez besoin de monde, aussi bien pour développer en permanence ces logiciels que sur le terrain, pour diagnostiquer, installer.
Oui, exactement. Alors, c'est pas que un logiciel, c'est d'abord des objets connectés que l'on développe nous-mêmes. Et donc, effectivement, on a besoin de renfort dans notre équipe bureau d'études pour développer, programmer nos objets connectés. On a besoin de... Ensuite, on les installe nous-mêmes, ces objets connectés, dans les bâtiments pour pouvoir effectivement piloter des systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et d'éclairage. Et puis, d'autres systèmes à la marge. Et puis, une fois connecté, une fois le bâtiment connecté, effectivement, là, il est piloté depuis un logiciel qui est bardé d'algorithmes d'intelligence artificielle pour optimiser les réglages en permanence. Et une équipe en chair et en os d'énergéticiens ou d'ingénieurs spécialisés dans la performance énergétique des bâtiments.
Quel est le métier le plus compliqué à pourvoir en ce moment dans ceux que vous venez de nous évoquer?
J'ai du mal à répondre à cette question. Je pense pas qu'il y ait un métier dans l'ensemble de nos équipes là qui soit plus compliqué qu'un autre. Il y a des tendances un peu différentes, mais globalement on y arrive.
Ce qui est intéressant, c'est que vous recrutez des CDI, mais aussi pas mal de stages pour former les gens finalement.
Oui. En fait, on a développé notre propre technologie. Et nos propres processus pour installer des équipements dans des bâtiments existants, dans des bâtiments en fonctionnement. On ne demande pas à nos clients d'arrêter leur bâtiment pour qu'on puisse s'installer. Donc, ce savoir-faire-là, on l'a développé en interne. Il est très spécifique, il est assez rare. Et donc, on préfère recruter plutôt des jeunes qui ont envie d'apprendre, qui aiment le défi technique, à qui on va transmettre ce savoir, plutôt que des gens expérimentés, parce que l'expérience à l'extérieur est souvent assez différente de ce qu'on fait.
Julien, comme Daniel Coenzardi, vous recrutez des profils qui sont assez, dans la tête des gens, genrés, des développeurs d'un côté et chez vous, des experts, pardon de le dire comme ça, voilà, mais de l'énergie aussi, des profils plutôt ingénieurs. Comment on fait en tant que patron pour aller chercher des profils diversifiés, pas seulement dans le genre, mais notamment des profils plus féminins peut-être, Julien?
On a la chance d'avoir un taux de diversité sur le sexe assez sympa chez nous. On n'est pas très loin de 50%. On doit être 40-60, quelque chose comme ça. Le bouche à oreille fonctionne bien, mine de rien. Au sein de nos équipes, on arrive à une taille critique. On est un peu plus de 90 maintenant et on a une taille critique qui permet de faire fonctionner le bouche à oreille. On a beaucoup de cooptation. Donc ça, c'est un levier. Ensuite, on est assez attentif aux candidatures féminines, en particulier forcément quand on reçoit des CV.
Chez vous, Daniel?
Alors moi, j'ai deux baguettes magiques. La première, c'est que notre directrice technique est une femme.
Ah oui, c'est pas habituel
dans notre secteur.
Dire,
donc ouais. Ça, c'est un élément intéressant pour motiver aussi des profils techniques. Et puis le deuxième levier, je vous parlais de profils plus fonctionnels. On a lancé une marque Abi Consulting qui va accompagner le cadrage métier. Et là-dessus, on va avoir plus de femmes qui sont potentiellement sur ces profils. Donc on va faire attention effectivement à les privilégier. En plus, en général, en termes de coopération avec les développeurs, la mixité marche assez bien. Donc voilà, on va vraiment investir cet axe-là.
Lorraine, pour entrer chez Efficia. Pour entrer chez Efficia, ça se passe directement à l'adresse qui s'affiche à l'écran, c'est contact@efficia.com. Vous pouvez aussi aller regarder sur Job Teaser, qui est un super site pour découvrir les métiers, et le Work également. On va reciter quelques-uns des postes, chef de projet, déploiement, gestion technique du bâtiment, conducteur, conductrice de travaux, des plus ou moins expérimentés, des énergéticiens, c'est pas facile à dire. Et puis vous avez entendu, bien sûr, toujours et encore des développeurs pour pouvoir continuer à travailler sur la partie soft. Et on note qu'il y a plusieurs localisations pour les postes, lesquels?
Oui, Paris, Bordeaux, Madrid et Milan.
Voilà, ça laisse le choix.
Exactement.
Du télétravail, messieurs, très très rapidement, Julien?
Un petit peu, un jour par semaine au minimum, pour les postes qui le permettent, conducteur de travaux, forcément sur site, c'est pas possible, mais globalement un jour par semaine.
Davantage peut-être, Daniel?
Alors nous, oui, beaucoup, beaucoup de recours au télétravail, beaucoup de souplesse, à une contrainte près, c'est qu'on est dans un métier de service où on est obligé de s'aligner en partie sur les contraintes des clients, mais déjà on milite pour que nos clients proposent un maximum de télétravail. En pratique, on a même des gens qui sont remote un peu partout, et certains, voilà, travaillent complètement à distance, on a par exemple un collaborateur qui est à Agen, tout seul.
Voilà, c'est noté. Merci messieurs, merci Daniel Cohen-Zardi, merci Julien Bélingue d'être venu nous voir pour recruter chez Softfluent et chez Efficia. Demain, Lorraine ?
Nous allons parler de décarbonation, mais toujours avec un angle social, un peu comme aujourd'hui. On se posera la question du dialogue social dans l'entreprise pour mener à bien cette transition écologique. Vous avez plein de questions, eh bien, on a quelques réponses demain avec un de nos experts.
Et en attendant, cette émission est à retrouver en podcast et en replay. Nous serons ravis de vous retrouver demain dès midi. Très bonne journée sur BFM Business.
60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business.